Le podcast À cœur d'elle est l'initiative de la table de concertation de Laval en conditions féminines et est diffusée dans le cadre du mois d'activité féministe de l'automne 2021. On milite pour une ville de Laval féministe et inclusive, une discussion à la fois. Bonjour et merci d'être de retour parmi nous au podcast À cœur d'elle. Aujourd'hui, on va avoir une discussion sur le féminisme et la réalité autochtone avec une invitée très spéciale. Bonjour Jennifer.
Allô.
Ça va bien?
Ça va bien et toi?
Oui, merci de t'être déplacée pour avoir cette discussion-là super importante. Avant de commencer, est-ce que tu aimerais dire un mot pour te présenter?
Oui, donc je m'appelle Jennifer Buckel, je suis étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Je travaille sur l'itinérance, en fait, dans les populations autochtones, que ce soit en milieu urbain ou dans les communautés. Je proviens de la communauté de Mastouillache, donc Kwaikwai à tout le monde, de Machto. Voilà, ça ressemble à ça.
Bien, merci beaucoup. Et puis, pour rentrer directement dans le vif de la conversation, il y a plusieurs enjeux qui sont importants pour les communautés autochtones, mais je me demandais si tu avais envie de discuter avec nous d'un enjeu, en fait, en particulier.
Vu mon expérience personnelle que j'ai vécue l'itinérance en arrivant à Montréal et vu, en fait, ce que je fais dans mes recherches personnelles, je trouve que l'itinérance, c'est vraiment un problème auquel il faut faire face aujourd'hui. Oui, aussi pour toutes les populations, mais la problématique, c'est que dans les populations autochtones, il y a une hausse constante là, qui est indéniable. Puis les services, malgré une hausse de services, surtout en milieu urbain, par exemple à Montréal, il n'y a pas d'amélioration de la situation. Donc, c'est ça qui me pose problème, en fait. Qu'est-ce qu'on ne fait pas comme du monde?
Donc, c'est ça que tu as envie de rechercher aussi avec ta maîtrise?
Exactement. Puis, tu sais, ça touche beaucoup de problématiques qui peuvent toucher les femmes ou qui pourraient aider les femmes. Par exemple, on sait que dans les communautés, il y a beaucoup de problèmes de violence envers les femmes. Ça peut mener à l'itinérance, malheureusement. Puis, en fait, c'est ça, des violences aussi, puis l'insécurité des femmes lorsqu'elles sont en situation d'itinérance peut les forcer à faire des choses qui vont être dangereuses, en fait, pour elles, pour survivre. Puis c'est ça aussi qui est important à gérer.
Ben oui, puis en fait, est-ce que tu as remarqué que l'itinérance, c'est différent quand on est une femme de quand on est un homme? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu vivre, en fait, dans ta vie, là, personnellement?
Oui, quand que j'étais dans la rue, j'ai pas utilisé les services parce que j'avais un chien. Donc souvent, les animaux peuvent pas être acceptés. Et je voulais rester avec mon chum, donc souvent, c'est pas des places mixtes où on peut dormir. Puis ce qui est intéressant et triste à la fois, c'est que ce soit pour les femmes autochtones ou non, en fait, on voit moins l'itinérance de ces personnes-là. On pourrait penser que l'itinérance, c'est une affaire d'hommes parce que c'est eux qu'on voit plus souvent dans la rue. Mais les itinérantes femmes, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que pour leur sécurité, ils vont plus souvent vivre l'itinérance cachée, donc que ce soit en dormant chez des personnes qu'elles connaissent ou parce qu'en fait, c'est mieux d'être avec quelqu'un qui nous prend pas soin que d'être à la merci de tout le monde dehors, là. Puis, c'est important. Puis, même chose pour les personnes autochtones. Dans les communautés, on voit pas vraiment l'itinérance. Puis, il y a plusieurs personnes qui vont dire que ça veut dire qu'il y en a pas. Mais comme pour les femmes, c'est souvent une itinérance qui est cachée. Donc, c'est pas parce qu'on la voit pas que c'est pas important ou que ça existe pas.
Bien, d'ailleurs, est-ce que tu as envie de dire un mot par rapport à ça, l'itinérance dans les communautés que, en fait, si j'ai bien compris, c'est souvent dit qu'il n'y a pas d'itinérance dans les communautés, bien que ce ne soit pas nécessairement vrai?
Oui, bien, au début, c'est ça, dans mes recherches qui m'a le plus allumée, en fait, c'était, on disait que dans les communautés, il n'y avait pas d'itinérance. Puis là, j'ai commencé à aller plus loin dans mes recherches, puis on parlait de mouvance circulaire, en fait. Ça, c'est pourquoi les personnes vont partir des communautés, que ce soit par manque de logement ou manque d'opportunités de travail, puis vont aller dans les centres urbains. Là-bas, ils vont vivre de la discrimination au logement, par exemple, puis ils vont se retrouver à la rue. Mais puis c'est ça, on va les voir, en fait. Donc, que ce soit en train de faire la manche ou on va les voir dehors, là. Sauf que dans les communautés, que ce soit à cause du froid, ou simplement à cause de notre vision de la propriété privée ou de notre esprit communautaire, l'itinérance n'est pas visible. Donc, ce que moi, en fait, je vais appeler itinérance dans les communautés, c'est, j'embarque là-dedans, tout ce qui est la surpopulation, le manque de salubrité. Parce que quand on regarde les définitions mainstream de l'itinérance, on dit que ces aspects-là, donc ne pas avoir accès à l'eau courante ou ne pas avoir de douche ou de bain qui fonctionne, c'est être en état d'itinérance. Mais quand on regarde les communautés, on va dire qu'il n'y a pas d'itinérance dans les recherches. Donc, on va moins intervenir et faire de projets communautaires pour ça dans les réserves. Puis, la seule recherche que j'ai pu avoir accès dans les communautés, c'était le FRAPU qui faisait une recherche au lac Simon. C'est ça, eux disaient la même chose, en fait, c'est moi qui dis la même chose qu'eux, plutôt. Mais ils expliquaient qu'au lac Simon, c'était 80 % des maisons qui étaient surpeuplées ou qui ne répondaient pas aux mesures de salubrité minimum, là. Eux disaient ça, pourquoi on ne dit pas que c'est de l'itinérance quand c'est dans les communautés?
Mm-hmm. C'est une bonne question à se poser, puis ça révèle bien, en fait, que notre définition même de l'itinérance ou de... Enfin, c'est plutôt toi qui disais ça avant l'enregistrement, là, mais que la définition du foyer est très blanche, je veux pas. Puis ça m'amène à te demander, en fait, est-ce qu'il y a des ressources qui existent actuellement qui sont culturellement adaptées, peut-être, ou est-ce qu'il y a un projet que tu as envie de partager, en fait, parce que peut-être que des ressources sont manquantes?
Bien, c'est sûr qu'on peut pas dire qu'il y a pas de bonne volonté puis de personnes qui travaillent d'arrache-pied pour ça. Surtout à Montréal. Dans le fond, je sais que juste récemment, dans la dernière année, près du Square Cabot, on a eu la tente qu'Alexandra Ambroise a pu réussir à construire pour aider les personnes itinérantes. Je sais qu'en début, c'était peut-être une dizaine de personnes qui y passaient, puis maintenant, on est rendu à 200 personnes par nuit qui vont y passer, donc ça prouve que ça fonctionne. On a aussi des maisons d'hébergement. On a la table ronde, en fait, qui va permettre aussi une réinsertion des personnes autochtones par le travail. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont bien. Mais selon moi, c'est des ressources pansements, en fait. Donc, c'est pas culturellement adapté dans le sens que on ne va pas permettre à ces personnes autochtones-là de vraiment créer ensemble leur communauté ou leur réseau de besoins. Donc, par exemple, moi, ce que je dis souvent, c'est que la seule façon de répondre à l'itinérance, ça serait par de l'housing, donc des projets de logement pour et par les Autochtones. Le pour et par est vraiment important.
Ben oui.
C'est ça, malheureusement, ce que j'ai vu dans mes recherches dans l'Ouest, on essaye beaucoup, mais souvent, il y a le pas dans ma cour, là. Mm-hmm. Donc, un peu comme le même problème qu'on a eu avec les piqueries il y a quelques années, là. Donc, les gens comprennent, les gens veulent. Mais quand c'est à côté de chez eux, à cause des stéréotypes qu'on a, des préjugés, ils sont moins d'accord. Donc, en plus du manque de fonds pour y arriver, le gouvernement donne des fonds, mais c'est jamais immense. En plus du manque de fonds, on fait face au manque de collaboration, que ce soit volontaire ou non, de la part des populations qui sont installées, là, donc, des settlers.
Tout le monde s'entend pour dire que c'est important. Tout le monde... dit qu'il faut faire quelque chose, mais après ça, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas l'argent, puis tout le monde est comme, oh, ça serait vraiment important, mais pas à côté de chez nous.
Puis aussi, j'aimerais ajouter, on en avait parlé la dernière fois, mais tout ce qui est l'aspect de méritocratie, l'aspect de il faut s'en sortir. Donc, pour les personnes autochtones, souvent, ça va être ça. Hein? Donc, on va donner de l'aide. Veux-tu travailler? Veux-tu des choses comme ça? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Je suis en train de perdre mes mots. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout de l'aide qui est personnelle. Donc, c'est pas de l'aide qui est pour la communauté au complet. Ça va être pour un emploi. Si t'es prêt, on va t'aider. Si t'es pas prêt, bien, malheureusement, on pourra pas nécessairement t'attendre. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut arrêter de vouloir à tout prix sortir les gens de la rue. Puis peut-être commencer à se dire, bien, en attendant... qu'on ait des vrais logements puis qu'on ait des vraies places où y aller qui sont qui sont dignes d'un mm-hmm. être humain, ben peut-être qu'on pourrait les aider à être bien dans la rue. Puis ça, c'est souvent aussi moins bien vu. Ça se fait beaucoup par la part de personnes individuelles, mais pour l'aide communautaire, c'est difficile aussi.
C'est ça, c'est se tourner vers une aide qui est plus pour tout le monde, en fait, qui aide la communauté autochtone en général et non pas seulement ceux et celles qui sont prêts à, disons, se trouver un loyer puis un emploi stable. C'est ce que tu veux dire?
Exactement. Puis je tiens à dire aussi que si ces personnes... Pour ces personnes-là, oui, c'est bien. Tu sais, moi, par exemple, j'ai été réinsérée par un programme de réinsertion par l'emploi avec Emploi Québec. Pour moi, ça a fonctionné. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de ça en même temps. Puis un coup que la personne est dans son appartement, il faut reconnaître qu'on est une population. Là, je dis avec ce qui se passe cet été, la découverte de 6 000 enfants. Mais même en plus de ça, on n'est pas chez nous. Donc ça aussi, il va falloir que ce soit réglé. Puis l'aspect de faire quelque chose pour et par les Autochtones vient redonner un peu ce lien communautaire-là qui a été détruit malheureusement.
Ce pouvoir-là aussi, forcément, de s'organiser puis de s'organiser selon ses propres règles.
Exactement.
Puis ensuite, ça m'amène à te demander si, selon toi, on peut lier le phénomène de l'itinérance à la perte du territoire ancestral.
Bien, évidemment, en fait, tout est lié. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réserves ne sont pas nécessairement situées dans les territoires ancestraux. Le territoire ancestral, en fait, avant, c'était un lieu de pas juste un lieu spirituel, même si c'était important, mais ça pouvait aussi être un lieu de survie. C'était un lieu où on pouvait avoir de la tranquillité, pouvoir dormir, pouvoir manger, par la trappe, par exemple, ou simplement par la cueillette. Au sens strict du terme, oui, évidemment, ça a changé quelque chose. Mais j'aimerais amener, en fait, l'idée du nomadisme ici. Pour plusieurs personnes autochtones, en fait, la mobilité, ça va être très important. J'amène souvent l'exemple de M. Volant. Lorsque je donne cet exemple-là de mobilité et de nomadisme, M. Volant, c'est un homme qui est mort il y a quelques mois dans une organisation pour les personnes itinérantes. C'était un Autochtone, puis lui, il faisait souvent... En fait, toute sa vie, il a voyagé Pessamite, Chicoutimi, Macheteau, Montréal. Puis quand il est mort, en fait, les journaux, la presse ont dit un itinérant est mort, un autre itinérant autochtone est mort à Montréal. Puis là, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, un autre, ça n'a pas de sens. Puis plus tard, j'ai eu la chance de tomber sur un article où ses sœurs parlaient. Puis ses sœurs expliquaient que pour lui, de venir à Montréal, c'était venir voir sa famille. C'était par choix. Puis ça arrivait depuis des années. Ça faisait partie de comment il vivait sa vie en tant qu'Autochtone sur son territoire. Pas ancestral nécessairement, mais sur un territoire qui autrefois était à ces personnes-là. Puis on dit, on ne veut pas que vous disiez que c'est un itinérant. Ce n'était pas un itinérant, il était nomade.
C'était comme une mauvaise compréhension de c'était qui, M. Volant, finalement. Là.
Exactement. Puis ça démontre, encore une fois, comme plus tôt, on parlait de comment la définition de l'itinérance, c'était une définition blanche. Donc ici, ça vient encore montrer la difficulté de compréhension de cette façon de vivre-là qui est nomade. Puis, au début de mes recherches, en fait, dans les publications blanches, le nomadisme s'était dit comme un concept plutôt ethnocentrique que les gens utilisaient pour justement expliquer qu'ils n'avaient pas d'itinérance dans les communautés, que ces gens-là étaient juste nomades. Donc, ici, ça pose pour moi quelque chose de très difficile, mais très intéressant en même temps. C'est quoi la différence entre le nomadisme et l'itinérance? Parce qu'il y a des Autochtones qui sont itinérants. Et il y en a qui sont nomades. Il ne faut pas rejeter aucun des deux concepts. Il faut mieux le comprendre pour mieux adapter l'aide. Ce n'est pas mm-hmm. parce qu'une personne est nomade qu'elle ne mérite pas d'être en sécurité ou qu'elle ne mérite pas de recevoir les services, là, d'être traitée de façon digne. Puis, encore une fois, cette personne-là, quand elle allait dans les communautés, M. Volant, on aurait pu dire qu'il n'était pas itinérant parce qu'on ne voyait pas, il dormait chez de la famille ou des choses comme ça. Donc, ça ramène un peu à ce que je disais tantôt, l'incompréhension du mode de vie, puis évidemment l'incapacité de s'adapter de nos services là, qui en découlent.
Puis, en fait, est-ce que aussi pour toi, puis ben, pour ta communauté en général, est-ce que c'est important la réconciliation? Est-ce que c'est quelque chose, un concept que tu as... Ben, pas que t'aimes, en fait, là, mais que t'adoptes, puis avec lequel t'es à l'aise, finalement?
Bien, je peux pas parler pour les gens de ma communauté. Je peux pas parler pour aucun autre Autochtone, aucun autre premier peuple, aucun autre... Chacun a vraiment une vision différente, puis dépendamment de leur passé, de leur... C'est toujours différent, mais moi, je suis très, très, très critique. Mon père est un survivant des pensionnats. La réconciliation, pour moi, c'est un chèque envoyé beaucoup trop tard, qui est très impersonnel et qui, malheureusement, est arrivé trop tard. Là, on peut moins en profiter à 75 ans. Puis, donc, c'est ça, j'ai un texte que j'ai trouvé très intéressant de M. Taïaki Alfred, qui est Mohawk, qui lui disait c'est pas la réconciliation est impossible sans restitution. Donc, c'est ce que moi, je trouve qui manque. Les adeptes de la réconciliation vont me dire que j'ai tort, mais pour moi, la réconciliation, c'est tourner la page puis réécrire un livre qui est plus vrai puis qui est mieux pour les Autochtones. Mais tant que les Autochtones n'écriront pas leur propre livre, il n'y a rien qui va aller mieux. Donc, pour moi, la réconciliation, c'est une assimilation un peu plus douce.
Mm-hmm.
Une assimilation trop tard, ouais. Sans violence. Une assimilation où on laisse les personnes autochtones avoir leur symbole, mais où qu'on les laisse pas vivre de leur façon. On leur redonne pas leur terre, on leur redonne pas le pouvoir, en fait, sur leur propre destin.
Mm-hmm. En ce sens-là, donc, est-ce que t'es plus en faveur des rétributions, plus...
Oui, bien, c'est ça. Pour moi, tu sais, je dis pas que la réconciliation est... C'est le diable, là. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans puis qui font des belles choses, mais pour moi, c'est juste vraiment pas assez. Pardonne-moi.
C'est correct.
Donc, c'est ça. Un exemple que je prends tout le temps, c'est la nation Atikamekw, en fait, qui récemment... après s'être battu plusieurs années, il a pu avoir son propre système de protection de jeunesse. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Là. Les Autochtones se faisaient souvent prendre leurs enfants par la DPJ, puis étaient placés dans des familles blanches, évidemment. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui vont même dire que c'était la suite logique des pensionnats autochtones. Puis, eux ont réussi à avoir leur propre système. Donc, quand un enfant doit être placé, il est placé dans une famille de la communauté. Il n'y a pas besoin d'être envoyé à des milliers de kilomètres ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est pour moi un bon exemple de restitution des droits de la communauté qui va agir pour eux et par eux. Mm-hmm. Donc, c'est un exemple de pourquoi...
De communauté, à quelque part, qui a retrouvé son pouvoir sur ses enfants dans ce cas-ci, alors qu'elle avait déjà été dépossédée.
Exactement.
D'abord avec les pensionnats, puis ensuite par la DPJ.
Exactement. Donc, c'est pour moi, ça, c'est c'est de la restitution. Donc, on redonne ce qu'on a pris. La réconciliation n'implique pas de redonner nécessairement, seulement de dire...
De se faire pardonner à quelque part, puis dire « c'est beau, on tourne la page ». Puis, comme tu as dit tantôt, il faudrait peut-être penser réécrire le livre. Ouais. Ben, j'aime ça comme expression. Je trouve ça beau. en fait, d'un autre sujet, là, nous, on est une organisation féministe, évidemment, donc j'ai envie de te demander, est-ce que, selon toi, il y a des outils qui permettraient au mouvement féministe d'être plus inclusif des femmes autochtones? Peut-être qu'on pourrait commencer par ton avis, en fait, sur le féminisme, puis ensuite, si... comme le deuxième volet de la question, s'il y a quelque chose que le mouvement féministe pourrait faire pour être plus inclusif?
Bien, oui. Personnellement, j'ai toujours eu de la difficulté à me sentir concernée personnellement par le féminisme parce que, en fait, selon moi, l'axe de violence genre est beaucoup, beaucoup moins... m'a beaucoup, beaucoup moins fait mal que l'axe de pouvoir colonial.
Mm-hmm.
Donc, personnellement, ma coucoum, ma grand-mère m'a toujours dit que... peut-être un peu pour faire peur à mes chums que j'amenais, mais elle leur disait, tu le sais que nous, on est d'une société matriarcale, puis il est mieux d'écouter, puis c'était un peu en joke, mais ça reflète bien comment j'ai perçu le rôle des genres quand j'étais plus jeune. Je vois très bien, en fait, toute la problématique. On peut pas dire qu'on vit pas dans une société coloniale, donc toute la problématique des genres. Et je vais aussi revenir sur, récemment, il y a une recherche de l'UQAC, l'Université de Québec à Chicoutimi, qui s'est lancée pour faire des études sur les avortements et les...
La stérilisation.
La stérilisation forcée de femmes autochtones. Ça a même été des lois écrites par le gouvernement, je pense, en Colombie-Britannique et en Alberta. Donc, ça, c'est des problèmes que les femmes autochtones vivent qu'il faut faire face. Mais je crois vraiment qu'en sortant de du problème colonial, on va régler beaucoup de problèmes...
Par rapport aux violences dues au patriarcat.
Exactement. Puis moi, ma vie personnelle a fait en sorte que, comme je l'ai dit, mon père est un survivant des pensionnats. C'est un nœud, en fait, que j'ai de la misère à faire de... Comme si chaque fois que je me penchais sur des problèmes des femmes, étant donné que pour moi, la personne qui a vécu le plus de violence dans ma vie, c'est mon père, ça devient compliqué un peu. Mais récemment, j'ai lu beaucoup je me suis forcée à lire beaucoup de textes. Puis j'ai vu, en fait, que féminisme et autochtone n'est pas contradictoire. Il y a beaucoup de femmes autochtones qui sont de plus en plus féministes et qui expliquent l'importance des femmes, en fait, dans le processus décolonial. Puis personnellement, le fait d'inclure les femmes autochtones, pour moi, inclusion, c'est un terme qui démontre une posture d'autorité de la personne qui inclut la personne. Donc, je refuse ce mot personnellement, mais ça, c'est un débat de sémantique. J'adore les petits débats sur les mots.
Mais tu vois, c'est vrai, tu me fais réfléchir comme ça, là, branché au micro, en fait, c'est vrai. C'est mon mot là, que je viens de dire, inclusif, mais c'est tout le temps ça. Puis je pense que tu le devines, ça part jamais d'une mauvaise intention, mais c'est plus de réfléchir à ce moment-là à comment tout simplement être partenaire. Tu sais, peut-être que ça serait mieux.
Exactement. Je pense que ce qu'il faut, c'est ne pas inclure... On dirait que je ne veux pas critiquer ton mot, mais ce que je veux dire,
vas-y, c'est... écoute, on est là pour être critiqué. Moi, c'est merci, en fait. Tu sais, je le prends pas...
C'est ça. C'est pas négatif, mais ça dit que, tu sais, la personne qui est inclue n'a pas la gentilité. C'est la personne qui inclut l'autre qui l'a. Donc, c'est là que, pour moi, c'est problématique. Mais ce qu'il faudrait, c'est, en fait... écouter les femmes autochtones qui sont déjà ensemble, écouter ce qu'elles ont à dire et si elles ont besoin de nous, y aller, et sinon, les laisser faire. Même chose au gouvernement, les personnes qui sont élues doivent aller parler avec ces personnes-là, leur demander quoi faire, aller prendre des photos devant des... C'est bien, mais c'est pas
concret.
C'est ça. Les femmes autochtones ont beaucoup de mots à dire. Si on regarde les centres d'amitié, ça a souvent été des choses qui ont été faites par les femmes. Donc, c'est ça. Seulement les écouter, demander qu'est-ce qu'ils ont besoin ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin. Moi, je ne le sais pas. Je pense qu'il y a assez de femmes autochtones qui vont pouvoir mieux répondre à cette question-là que moi.
Donc, se placer dans une posture d'écoute, ce serait un bon conseil, donc, pour le mouvement féministe.
C'est ça. Un exemple que j'ai, c'est la marche de Joyce. Il y a eu beaucoup de soutien des personnes québécoises, des femmes. Il y a eu beaucoup de personnes dans la marche. Ça, c'est parfait. Tu sais, je dis pas rester chez vous, là. Ça, c'est parfait, sauf que la marche reste qu'elle a été organisée et qu'on a décidé par des femmes autochtones. Donc, c'est un petit exemple d'organiser la marche à leur place. C'est peut-être pas...
Approprié,
même si ça peut être fait de bonne volonté, tu sais. Mais de voir, hey, avez-vous prévu une marche? La réponse va probablement être oui. Puis d'aller les soutenir, ça, c'est parfait. On peut être alliés. Je veux pas
tout détruire. Oui. Ben non, pas du tout. Puis en fait, tu ouvres la porte un petit peu là, sur ça, le concept d'allié, ben as-tu un conseil, disons, pour les personnes qui souhaitent être des alliés, un peu entre guillemets, là, parce que genre, je sais qu'en tant que, disons, personne blanche, c'est pas du tout ma place, disons, de me m'auto-proclamer alliée. T'sais, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Mais quand même, t'sais, pour quelqu'un qui souhaite, disons, amplifier les voix des communautés puis qui souhaite être solidaire, t'sais, donc, à quelque part, être une personne alliée, est-ce que tu as un conseil ou tout simplement un mot à dire?
je tiens juste à dire que l'écoute, je le rappellerai encore une fois, l'écoute, puis le soutien quand il y a des organisations autochtones qui parlent, là, que ce soit pour protéger un territoire ou pour empêcher quelque chose de polluant, pardonnez mes mots peu, excellents là-dessus. Mais comme tu l'as dit très bien, là, allié, il ne faut pas se nommer allié. C'est quelque chose que les personnes autochtones vont donner, un peu comme le concept d'aîné. Là, les aînés, je ne choisis pas qu'ils sont aînés. C'est un titre qui est mérité, qui est donné. Mais je donnerais l'exemple, en fait, pour parler un peu de féministes, vu que j'ai eu de la misère. Mais l'exemple, en fait, de la problématique des hommes féministes. Souvent, en fait, ils vont se proclamer alliés, ils vont tout faire pour aider. Mais au final, quand on regarde, c'est eux qui prennent la parole, c'est eux qui dirigent les discussions. Un peu comme les hommes dans leur travail d'allié avec les féministes, ben les personnes blanches dans leur travail d'allié avec les autochtones doivent écouter et laisser la place. S'il y a des fois que les personnes autochtones veulent rester entre autochtones, ce n'est pas, il ne faut pas voir ça comme de la violence envers les blancs ou quoi que ce soit.
Ben, de la même manière, en fait, dans le mouvement féministe, c'est quand même quelque chose qui revendique la non-mixité, c'est rester entre femmes. Fait que ça se comprend très bien que parfois, il faut rester entre personnes autochtones pour s'organiser puis discuter, en fait, librement sans qu'il y ait finalement des personnes blanches qui sont là dans la salle à...
Exactement. Puis c'est aussi créer un safe space pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on veut dire. Des fois, on peut pas faire fi de la violence qu'on a vécue. Tu sais, les pensionnats, c'est... Ça a l'air loin, mais c'est très récent, là. Oui, parfois, on a du venin à cracher, puis on a des choses difficiles à dire, puis les cercles de partage, les safe spaces vont être vraiment nécessaires. Moi, il y a des choses que je pourrais jamais dire s'il y a des personnes blanches dans la salle, parce que je vais m'en retenir ou je vais pas vouloir... me faire couper des alliés possibles. Puis c'est ça, je tiens à dire aussi que ce qu'il faut faire pour aider les personnes autochtones, c'est arrêter justement de tout le temps vouloir les inclure ou faire des choses comme ça, mais leur redonner la gentilité. Je prends toujours l'exemple de Yann Lafrenière qui récemment avait dit « On a des problèmes entre la police puis les personnes autochtones. » Ça fait longtemps qu'on le sait. Au moins, lui, tu vois, il a voulu régler le problème, mais ce qu'il a décidé de faire, il a dit, on va mettre plus de personnes autochtones dans la police. Ça, c'est un exemple de personne qui pourrait avoir l'air d'un allié, sauf qu'encore une fois, ça ne vient pas modifier le système, ça ne vient pas changer le système colonial dans lequel on est. Donc, il faut faire attention de voir ce que les Autochtones veulent. Et ne pas... Le fait d'en intégrer ou d'avoir des petits quotas là, dans notre organisation ou dans notre entreprise, c'est pas assez. Il faut vraiment qu'il y ait du changement, puis que ça va faire mal, puis ça va être difficile. Mais on est rendu là.
Oui, bien justement, selon toi, en fait, là, c'est quoi une bonne façon? Ou en fait, as-tu envie de dire un mot sur comment c'est possible de changer les structures coloniales?
Je reviens à... J'ai pas de façon, donc je reviens avec mes exemples. L'exemple des Atikameks, en fait, qui se sont battus pour avoir leur propre système de protection d'enfance, ça, c'est un bon pas, parce que ça c'est géré par et pour eux. Ça va permettre aux enfants de rester dans leur culture. Est-ce que c'est assez? Non. Est-ce que c'est normal que des gens se soient battus pour ça? En fait, non, ça devrait être de fi, mais c'est vraiment bon. Et la question, c'était quoi déjà? Oui.
je me demandais si tu avais envie de dire un mot sur comment changer les structures coloniales. Est-ce qu'il y a peut-être un concept, tu sais, en fait, je pense à l'autochtonisation, si tu avais envie de dire un mot là-dessus.
Oui, l'autochtonisation, c'est mon mot préféré. Je le prends de Joyce Green, en fait, qui parlait dans un texte, un des premiers textes que j'ai lu dans mon entrée à l'université. De créer un troisième ordre du gouvernement autochtone, qui gérerait les affaires autochtones par des personnes autochtones. Puis ça, c'est un exemple parfait pour moi qui donne la différence entre l'inclusion, donc avoir des personnes autochtones dans les différents postes de gouvernement versus avoir un gouvernement autochtone où là, vraiment, c'est les personnes qui décident. Ça, c'est... à très grosse échelle, mais à plus petite échelle, c'est un peu tout ce que je disais là, tout à l'heure. Donc, des housing autochtones pour et par les autochtones. Donc, se battre pour que les autochtones aient une agentivité, un retour de pouvoir d'action sur leur propre peuple. Puis aussi les aider, les soutenir dans leurs demandes, en fait, que ce soit pour les housing ou pour les choses comme ça, les recherches. Donc, vraiment, il y a beaucoup de travail, mais ça va être à nous de le faire.
Bien, exactement. Bien, j'aime ça, tu me dis ça avec un sourire dans les yeux. Bien, honnêtement, en fait, j'ai envie de te dire bon succès, tu sais, dans ces projets-là. Puis, bien, en fait, d'être comme... je me vois là, en arrière qui t'applaudit, tu sais, c'est ça.
Juste de m'inviter aujourd'hui puis de m'écouter, c'est un bon début. Puis il n'y a pas juste une façon d'y arriver. Il y a des gens qui conscientisent. Je pense à l'organisme de Mikana, en fait, qui donne des ateliers pour les personnes non autochtones avec des ambassadeurs autochtones. Tu sais, ça commence pas comme ça, par l'éducation. Donc, il n'y a aucun geste qui est inutile. Sauf que moi, j'étudie en sciences politiques, donc c'est sûr que je suis un peu plus vers le haut.
Bien, merci beaucoup d'être venu, en fait, nous partager toutes tes connaissances. Puis, tu as quand même nommé plusieurs auteurs, autrices, là. Donc, pour toute personne intéressée à en apprendre plus, là, je pense qu'il y a du matériel ici pour en fait, s'y mettre, là. Donc, vraiment, un gros merci de t'être déplacé. Puis, à la prochaine.
Merci.
Vous venez d'écouter le podcast À cœur d'elle, à l'animation Justine Bouvier, à la composition musicale Marika Galea, au graphisme Véronique Lee, enregistré au studio Espace Numérique avec le soutien financier de la Ville de Laval et du secrétariat à la condition féminine dans le cadre de l'entente régionale en égalité